Radio Starbucks.
Morning Edition from NPR.
France Inter, le 18-20.
Nous, on est partis à cause de l'insécurité, des pénuries. Moi, je suis arrivé il y a 2 ans. Et la vie n'était pas aussi difficile qu'aujourd'hui au Venezuela.
Ce sont donc des Vénézuéliens qui fuient la dureté économique et politique de leur pays que vous venez d'entendre. Ils sont au Chili, c'est-à-dire très loin de leur base. 250 000 réfugiés vénézuéliens. Quand on pense qu'il y a 5 ans encore, le Chili n'avait que 400 000 étrangers chez lui. C'est dire, ce sera l'escale reportage d'un jour dans le monde. Sous les radars et Florence Paracolos avec Georges Soros qui jette l'éponge et quitte la Hongrie, l'Arabie Saoudite devant la télé et le mariage princier d'Angleterre au plus bas dans les sondages. 18h50, les 3 minutes écolo de Sandy Dauphin, ça va plaire à certains. Sandy, vous nous emmenez voir à quoi ressemblent des autoroutes à vélo dans certains pays, des véloroutes en quelque sorte. 18h55, le monde à l'envers de Jean-Marc Four et cette question après les 60 morts de Gaza, que dit le monde arabe? Eh bien, pas grand-chose, vous le verrez, mais avant, direction Bruxelles, où les réunions avec les Iraniens étaient cruciales aujourd'hui. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans le monde.
L'Europe est au pied du mur, l'Europe doit montrer ce qu'elle a dans le ventre, l'Europe face à son destin. Il y en a eu des titres dans la presse aujourd'hui, aussi depuis que les États-Unis ont déchiré donc l'accord sur le nucléaire iranien. Des titres pour nous dire à nous, Européens, de montrer ce que nous sommes et qui nous sommes en face de Donald Trump. C'est bien ce qu'attendait Mohamed Javad Zarif, le chef de la diplomatie iranienne, que sa tournée donc a amené auprès de chacun des signataires de l'accord. Et c'était donc à Bruxelles ce mardi. Discussion en cours. Bonsoir Pierre Vimont.
Bonsoir.
Vous
bonsoir.
Connaissez, Pierre Vimont, les deux acteurs majeurs de ce qui se joue. Vous avez été ambassadeur à Washington, vous avez été aussi numéro 2 de la diplomatie européenne. Tiens, quel titre vous choisiriez-vous de ce qu'on peut lire ce matin et que vous avez peut-être lu vous aussi? Est-ce que l'Europe est au pied du mur? Est-ce qu'elle a des choses à montrer? Est-ce que c'est en ces termes-là qu'il faut prendre le problème?
Oui, dans une large mesure, elle est au pied du mur. Je ne suis pas sûr pour autant qu'elle arrivera à répondre à toutes les attentes que certains placent dans l'Europe, parce que face à la puissance économique américaine, elle n'est pas très armée, il faut bien reconnaître, et qu'en réalité, ce qu'elle peut dire à Monsieur Zarif, qui est en effet actuellement à Bruxelles, c'est qu'il faut à tout prix préserver cet accord nucléaire, donc obtenir des Iraniens qu'ils continuent à geler leur programme nucléaire iranien, et en revanche, leur dire qu'on fera tout notre possible pour essayer de continuer à les faire bénéficier des retombées économiques de notre coopération avec l'Iran. C'est ça le marché.
J'allais vous demander, geler, oui, mais geler contre quoi, en fait? À un moment, le donnant-donnant qu'attendent les Iraniens, il est matérialisé par quoi?
Eh bien, je crois que l'honnêteté, c'est pour les Européens de dire aux Iraniens qu'ils feront tout leur possible, mais qu'ils ne pourront peut-être pas aller jusqu'au niveau espéré par les Iraniens. De toute façon, les Iraniens se plaignaient déjà, dans la mise en œuvre de l'accord depuis 2015, de ne pas recevoir toutes les retombées économiques qu'ils attendaient. Ce qu'ils attendent maintenant, c'est que celles qu'ils ont obtenues, les investissements qui ont déjà été faits, au moins demeure et reste en Iran. Et même ça, je ne suis pas sûr que les Européens arriveront à protéger et à sauvegarder ces investissements-là, parce que les entreprises qui sont derrière pensent aussi à leurs intérêts sur le marché américain, et quand ils doivent choisir et arbitrer entre le marché américain et le marché iranien, généralement, ils arbitrent en faveur du marché américain.
Et bien donc, sûr, c'est ça l'enjeu, c'est ce qu'on leur demande, c'est celui-là, le marché en fait.
Bien sûr,
Qu'est-ce que vous choisissez entre le marché américain ou le marché iranien? Effectivement, là-dessus, il n'y a pas photo. On entend votre, j'ai pas envie d'appeler ça du pessimisme, Pierre Vimont, ce réalisme qui est le vôtre, de dire on ne peut pas donner ce qu'on ne peut pas, on ne peut pas promettre ce qu'on sera incapable de donner. Mais pour l'Europe, est-ce que c'est une question de moyens? Est-ce que c'est une question de levier que nous n'avons pas? Ou est-ce que, disons-le comme ça, c'est aussi une question de courage?
C'est d'abord une question de levier, parce que la réalité économique dans le monde fait que les États-Unis demeurent la plus grande puissance économique. C'est leur monnaie, le dollar, qui sert aux échanges internationaux. et que dès lors que le président américain est décidé à aller jusqu'au bout et à prendre des sanctions contre tous ceux qui continueraient à commercer ou à investir en Iran, bien évidemment la partie devient très inégale. Et bien évidemment, ce qui est terrible pour les Européens, c'est que normalement nous sommes les alliés des Américains. Or, l'Amérique se comporte avec ses alliés comme s'ils étaient en quelque sorte des ennemis. Donc c'est ça qui manque. La deuxième chose qui peut manquer aussi, c'est moins le courage que l'unité entre les Européens. Parce que dès qu'il s'agit d'affronter les Américains et de se positionner dans ce qui pourrait être une confrontation avec les Américains, vous avez une grande partie des pays membres de l'Union européenne qui préféreront attendre.
Allons-y, franchement, Monsieur Vimont, qui sont les mauvais élèves qui sont ceux qui seront, on va le dire différemment, pour qui c'est plus difficile de faire un pied de nez, en gros, aux Américains ?
Sans citer de nom, il y a d'abord ceux qui n'ont pas d'intérêt particulier en Iran, qui n'investissent pas ou ne font pas de commerce avec l'Iran. Il y a ceux pour lesquels la protection américaine, notamment dans le domaine de la défense, est absolument essentielle. Il y a ceux qui aujourd'hui peuvent perdre dans les négociations commerciales que l'on est en train d'avoir avec les Américains. Vous savez, l'histoire des droits de douane sur l'acier ou l'aluminium. Tous ceux-là ont plutôt envie de prendre un profil bas et d'attendre. Il y a ceux aussi qui ne sont pas directement intéressés par tout le dossier nucléaire iranien, puisqu'il a été essentiellement traité par l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la France, et qui donc ont un peu le sentiment que c'est un dossier qui ne les concerne pas directement.
Mais alors quand même, si on veut signifier aux Américains, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut même pas signifier aux Américains combien cet accord déchiré peut être compliqué pour nous, Européens? Ça veut dire qu'on peut même pas envoyer ce message-là. Dans le New York Times, c'était hier ou avant-hier, je crois, l'éditorial était titré « L'Europe humiliée une fois de plus ». Comment on fait pour ne pas se sentir humiliée une fois de plus si, comme vous le dites, on a les mains liées de toute façon ?
Il y a deux manières, à mon avis, d'essayer de sortir de cette difficulté. Ce ne sera pas facile, mais c'est ça qu'il faut essayer de faire. Vis-à-vis des Américains, il ne faut pas hésiter à leur dire qu'on est en complet désaccord avec leur attitude sur ce dossier iranien. On l'a déjà dit, il faut continuer à le faire et continuer à se battre avec eux pour essayer d'obtenir au minimum des exemptions pour nos entreprises européennes, pour continuer à dire que ce qu'il faut, c'est essayer de chercher la stabilité dans la région et que la méthode de Donald Trump n'est pas la bonne. Mais l'autre manière d'essayer d'avancer, c'est de dire aux Iraniens qu'il faut qu'ils restent à bord de cet accord. Parce que bien évidemment, s'ils devaient à leur tour quitter l'accord et recommencer leur programme d'enrichissement de l'uranium, à ce moment-là, les Européens n'auraient plus guère le choix. Il faudra que eux aussi remettent en place des sanctions contre l'Iran. Et alors là, on va vers une situation de blocage et d'instabilité totale dans toute la région.
On a un peu l'impression que vous nous parlez d'une espèce de marché perdant-perdant. Les délais, les exemptions, c'est effectivement ce que Bruno Le Maire a essayé de vanter auprès des entreprises aujourd'hui. Même, il y a un outil dont on a beaucoup parlé depuis 6 jours, qui est celui de la loi de blocage. Pourquoi ça tient absolument pas, y compris juridiquement? Pourquoi ça ne marcherait pas? Pourquoi c'est pas possible, cette fameuse loi de blocage que pourraient mettre en avant les Européens?
La loi de blocage, d'abord, elle date de 1996. Elle était liée à des sanctions qui concernaient à l'époque surtout la Libye, Cuba, un peu l'Iran déjà à l'époque. Et c'est une mesure qui avait eu un certain succès parce que à la Maison Blanche, vous aviez un président qui s'appelait Bill Clinton et qui était quand même capable d'écouter un peu ce que disaient les Européens. Nous sommes dans une configuration tout à fait différente aujourd'hui. D'abord, il faudrait remettre à jour ce règlement, et ça va prendre du temps. Encore une fois, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, il faut que tous les Européens soient d'accord pour le faire, et de toute façon il va falloir discuter, ça va prendre quelques mois. On a d'autres moyens, on peut trouver aussi des investissements à travers la Banque européenne d'investissement, encourager les États membres à mettre en place des lignes de crédit en faveur des entreprises qui feraient du commerce ou des investissements avec l'Iran, etc., etc. Mais tout ça, c'est vrai, ça demande du temps. Et surtout, ça va être confronté à une administration américaine qui, elle, a dit très clairement, il ne faut plus rien faire avec l'Iran. Et si vous vous le faites, on vous sanctionnera. Donc là, le problème, au fond, c'est au-delà de toutes ces questions, est-ce qu'on est capable de mettre en place des législations, des règlements, etc., c'est qu'on est en confrontation directe, dans un affrontement face à face avec l'Amérique, avec lequel nous ne partageons pas la manière de voir la relation avec l'Iran et avec les autres pays de la région. C'est ça, fondamentalement, la difficulté.
Ce qui risque effectivement de se prolonger, le mandat de Donald Trump, il est très loin d'être terminé. Est-ce que, vous l'avez à peine évoqué, est-ce qu'il faudrait effectivement les remettre au goût du jour, ces éventuels leviers, cette loi de blocage ou autre chose, peu importe, mais se dire qu'à partir de maintenant, de toute façon, comme cette situation peut se reproduire commercialement et sur d'autres sujets avec les États-Unis, remettons au goût du jour ces outils-là?
Oui, mais il faut aller beaucoup plus loin. Si on veut se doter de tout l'arsenal que possède, par exemple, l'administration américaine en matière d'extraterritorialité, des sanctions ou d'extraterritorialité de la loi américaine, nous devons à la fois avoir des législations, avoir des agences qui nous permettent de contrôler la mise en œuvre de tout cela, comme les Américains l'ont avec l'Office de contrôle des investissements étrangers. Donc c'est une affaire de longue haleine. Il faut le faire. Je pense pour ma part que ça fait longtemps que les Européens auraient dû commencer et qu'aujourd'hui c'est un rappel salutaire qu'il faut que l'Europe fasse le travail pour se doter d'armes contre l'extraterritorialité américaine. Mais encore une fois, ça va pas se faire pendant l'été. Ça va demander plusieurs années, à mon avis, de travail.
Est-ce que, justement, vous parliez de cette forme de réveil, en fait, est-ce que quand même cette histoire a réveillé l'Europe et c'est son côté salutaire, finalement, c'est le cercle vertueux? Est-ce qu'on regarde les choses différemment? Est-ce que vous disiez le problème, c'est d'être réellement unis? Mais finalement, est-ce qu'il se passe quand même quelque chose en ce moment contre les États-Unis, autour de l'Iran, en Europe ou pas?
Il se passe quelque chose qui s'appelle tout d'un coup la prise de conscience que pour ce qui concerne le système multilatéral dans lequel nous vivons un moment important, un changement, peut-être un tournant, parce qu'on a une administration américaine qui ne croit plus au multilatéral. On l'a vu avec l'accord de Paris sur le changement climatique, avec le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem, aujourd'hui avec l'accord sur le programme nucléaire iranien. L'Amérique ignore les traités qu'elle a signés, les accords qu'elle a souscrits, et va de l'avant tout seul de son côté. Donc ça veut dire que si on veut préserver le système multilatéral, éventuellement l'adapter, il faut apprendre à travailler sans et peut-être même contre le leadership américain, trouver des alliés dans le monde, on pense bien sûr à la Chine, peut-être à d'autres pays, l'Inde, etc. Et il faut que l'Union européenne assume cette responsabilité d'être parmi ceux qui vont essayer de réfléchir à un système multilatéral sans les Américains, peut-être même contre les Américains. Encore une fois, il faut être honnête, c'est pas facile. Compte tenu du rôle de l'Amérique dans ce système multilatéral, du poids du dollar, du poids de l'économie américaine, songez aux GAFA, à toutes ces grandes entreprises américaines.
À qui on n'arrive pas à faire payer des impôts, donc on n'est pas sorti des ronces.
Exactement. L'affaire est longue. Mais si les Européens, comme vous le disiez, commencent à prendre conscience de cela, et commencent à prendre conscience surtout que beaucoup de pays à travers le monde regardent vers l'Europe pour qu'elle prenne un peu la tête de ce mouvement, alors peut-être qu'il y a un peu d'espoir. Mais au départ, il faut que les Européens aient un peu confiance en eux, restent unis et aient le courage de se dire ce qu'ils n'ont rarement fait dans le passé. Nous n'avons pas peur d'affronter les Américains parce que nous pensons qu'ils ont tort. Souvenez-vous de l'Irak en 2003. Généralement, ce genre d'attitude aboutit à de très fortes divisions.
Mais des moments dont on se souvient quand même. Pierre Vimont, merci beaucoup. On a entendu votre volonté de changement de paradigme, si je puis dire, venant de l'Europe. Merci mille fois de votre passage.
Merci beaucoup. Merci de votre invitation.
En direct de Bruxelles. Merci.
France Inter. Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde.
La suite d'un jour dans le monde au Chili avec des réfugiés vénézuéliens qui sont loin de leur base mais qui fuient la dureté économique et politique de leur pays qui pourtant vote dimanche sous les radars avec George Soros qui part et l'Arabie Saoudite qui regarde la télé. Bonsoir Sandy Dauphin.
Bonsoir.
Le moment écolo d'un jour dans le monde avec des autoroutes à vélo alors.
Oui, on va parler d'un acronyme qui va vous plaire, les REV, les réseaux express pour vélo qui se multiplient un peu partout dans les grandes villes.
Et à tout de suite, Jean-Marc Four, bonsoir.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Le monde à l'envers avec cette question. Où était le monde arabe quand 60 Palestiniens sont morts hier à Gaza?
Et oui, et si le plus frappant, ce n'était pas la répression israélienne, mais le silence des pays arabes. Ça en dit long sur la solitude des Palestiniens.
À tout à l'heure, Jean-Marc. Le tour de la planète continue avec un détour par l'Écosse. Voici Franz Ferdinand, Lazy Boy. Dit Franz Ferdinand sur France Inter.
France Inter.
Good evening and welcome.
Yerasmakio Kapion.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Sous les radars, Florence Paracolos, direction la Hongrie pour commencer. La Hongrie, sa fondation, celle du milliardaire George Soros qui déménage.
La fondation Open Society quitte Budapest pour Berlin. Cette fondation créée en 84 qui a accompagné la chute du communisme dépense chaque année 1 million de dollars en Hongrie pour soutenir des ONG. Mais impossible désormais de protéger la sécurité de nos opérations et de notre personnel contre l'ingérence du gouvernement, c'est ce qu'écrit son président. Et on imagine qu'il y en a un qui sable le champagne ce soir, c'est Viktor Orban, premier ministre de droite, anti-immigration et anti-Europe, réélu le mois dernier. Cet ancien libéral avait pourtant profité de la générosité du milliardaire américain, juif d'origine hongroise. C'est grâce à une bourse de la fondation Soros qu'il a pu poursuivre des études à Oxford au moment de la chute du mur. 30 ans plus tard, son ancien bienfaiteur milite, entre autres, pour une Europe ouverte aux réfugiés. Et Orban en a fait son bouc émissaire, l'ennemi public numéro un, l'argument principal de sa dernière campagne électorale. Soros, ou le grand complot pour submerger les nations et détruire la Hongrie. Les soldats de Soros veulent décider à notre place, penser à notre place et nous dicter ce que nous devons être. Nous ne l'avons pas toléré de l'Empire soviétique. Nous ne le tolérerons pas non plus de l'Empire Soros. Avec cette rhétorique des affiches en 4x3, la tête de Soros en gros plan et ce message « rira bien qui rira le dernier », des questionnaires anti-Soros envoyés dans tous les foyers et bientôt une loi « Stop Soros » pour taxer les ONG qui soutiennent l'immigration et faire surveiller leur personnel par les services de renseignement. Tout cela a eu raison de la ténacité du mécène. Il va continuer à financer la culture, l'éducation, la liberté de la presse en Hongrie, mais d'un peu plus loin. Pour l'instant, sa prestigieuse université d'Europe centrale se maintient à Budapest, mais elle aussi est menacée.
Allez, Florence, direction de l'Arabie Saoudite qui continue sa mue sous l'impulsion du prince héritier Mohamed Ben Salman.
Bah oui, il a donné aux femmes le droit de conduire, d'ouvrir leurs entreprises, d'aller au stade. Il a rendu le cinéma aux Saoudiens. Il va maintenant leur proposer de se divertir en regardant la télé. La chaîne publique SBC va lancer ses programmes pour le début du Ramadan cette semaine.
احب الموسيقى واحب
SBC, une chaîne qui cible les 15-35 ans. Le Prince en a 32, animé par des jeunes saoudiens et saoudiennes. On y trouvera des séries Made in Arabia, des concours de chant, des talk shows, du cinéma pour accompagner les changements vécus par le royaume, renforcer l'esprit d'ouverture et bannir la pensée extrémiste. C'est le cahier des charges d'SBC qui compte bien écraser la concurrence dès le premier soir.
Et ben on regardera s'il y a de l'audimat là-bas aussi. Enfin, qui se passionne pour le mariage prince C'est britannique de samedi.
Le père de Meghan Markle viendra-t-il au mariage de sa fille avec le prince Harry? Oui, on vient de l'apprendre. Pourquoi est-elle fâchée avec ses frères et sœurs? Pourquoi le déjeuner après le mariage est un cocktail et pas un repas assis? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? Quelle robe va porter important. L'américaine? Et combien de questions encore sur ce mariage princier qui aura lieu samedi à Londres? C'est une mine pour les tabloïds. Vu de France, on a l'impression que les Britanniques se sont arrêtés de respirer ces derniers jours transis devant l'événement. Eh ben non, figurez-vous que selon un sondage, les deux tiers des Britanniques s'en fichent. 66% des personnes interrogées par l'Institut YouGov ne s'intéressent pas à ce mariage, contre un tiers que ça passionne tout de même. Jean-Marc Four, en face de moi, qui n'est pas britannique, mais qui pourrait l'être, est passionné et qui en vient. Parmi eux, forcément, donc Jean-Marc Four, les commerçants qui ont misé sur les objets dérivés, les vêtements, les boissons spéciales mariage, les sushis Meghan et Harry, les Britanniques en sont friand de ces objets dérivés, il devrait en consommer pour 120 millions de livres. Un cabinet de consultants évoque le chiffre d'un milliard de livres de retombées, tous secteurs confondus. Donc si ça n'intéresse pas les Anglais en majorité, enfin c'est ce qu'ils disent, peut-être parce qu'ils ne veulent pas passer pour des midinettes, en tout cas c'est sûr ça intéresse le ministre de l'économie britannique.
Voilà, je retiens qu'il y a des sushis Meghan et Harry, et ça, oui. Est-ce que c'est pas typiquement british? Merci Florence.
France Inter,
Doha, Harare, Jérusalem, Mecca,
le 18-20,
le Mexique est juste derrière,
un jour dans le monde,
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth,
France Inter.
Et nous sommes au Chili dans l'escale reportage d'un jour dans le monde ce soir. Au Chili qui fait partie de ces pays d'Amérique du Sud qui accueillent des Vénézuéliens qui ont quitté le régime de Nicolas Maduro. Le Chili, c'est le troisième pays de destination, mais vous allez comprendre ce que ça représente avec quelques chiffres. Bonsoir Justine Fontaine.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Justine, avant de plonger dans la vie de ces Vénézuéliens au Chili, une curiosité, ces réfugiés qui sont installés là, est-ce qu'ils vont voter dimanche prochain, date des élections au Venezuela ou pas?
Eh bien, la plupart d'entre eux n'ont pas pu s'inscrire sur les listes électorales ici, mais ils sont tellement dégoûtés de la politique et du régime qu'ils n'auraient probablement pas voté. D'un côté, ils voudraient que le régime tombe, mais d'un autre côté, ils n'ont aucune confiance dans ce scrutin.
Allez, on voit ça ensemble donc. Vous êtes partie à leur rencontre, Justine, et on écoute votre reportage.
Depuis le début de l'année 2016, près de 250 000 Vénézuéliens se sont installés au Chili. Un chiffre énorme pour ce pays situé à l'extrême sud du continent américain, car il y a 5 ans encore, il n'y avait que 400 000 étrangers dans le pays, principalement venus du Pérou, de Bolivie ou d'Argentine, qui partagent tous une frontière commune avec le Chili. Aujourd'hui, les vendeurs ambulants vénézuéliens sont omniprésents dans plusieurs quartiers de la capitale. Quelques restaurants vénézuéliens ont même ouvert, comme Don 70, qui propose des cachapas, des crêpes épaisses à base de purée de maïs.
Ok, te repito el pedido. Tengo tostones de entradas, una cachapa con extra de nata, que es sencilla, y tres maltas. Listo, permiso.
Andui Pacheco, 38 ans, a lancé ce restaurant avec un ami. Il est arrivé du Venezuela il y a 2 ans pour suivre sa famille et parce qu'il a confiance dans l'économie du Chili.
Quand je suis arrivé en 2016, je caminaba por aquí,
Quand je suis arrivé en 2016, je rencontrais des Vénézuéliens en me promenant dans ce quartier, mais maintenant c'est incroyable. Il y en a vraiment énormément des Vénézuéliens.
Je dirais que 90% de mes clients sont Vénézuéliens. 11 mois, nous avons ici. Et de vrai, commencé avec une
area. Je pense que 90% de mes clients sont du Venezuela. On a ouvert il y a 11 mois, on a commencé avec 20 couverts, maintenant on en a 60 et ça ne suffit pas. Les tables sont pleines tous les soirs à partir de 8h du soir et le week-end de l'ouverture à 13h jusqu'à la fermeture, on n'arrête pas. Il y a 40 personnes qui attendent une table.
Il y a 40-60 personnes esperando mesa.
Aujourd'hui, il emploie une vingtaine de personnes et plus de 300 CV de Vénézuéliens s'empilent sur son bureau. La plupart sont diplômés, mais en arrivant, ils cherchent n'importe quel travail en attendant de faire reconnaître leur diplôme ici. Nous sommes maintenant à l'Estadio Nacional, à quelques stations de métro du centre-ville de Santiago. Deux équipes vénézuéliennes disputent un match de baseball pour se qualifier pour les demi-finales d'un tournoi local.
Eux, ce sont les Athletic Verdes. Je crois qu'ils ont un joueur chilien, mais les autres sont vénézuéliens. Et nous, Venezuela Junior. On est tous vénézuéliens.
Yoander Gomez, barbe brune, très fournie et maillot jaune sur les épaules, fait partie de l'équipe Venezuela Junior.
Je crois que nous avons fait 2 ans. Si, quand nous arrivons, nous avons 8 équipes.
On va bientôt fêter les 2 ans de l'équipe. Quand on a commencé, il n'y avait que 8 équipes. Et maintenant, on est au moins 24. Et on est là pour faire ce qu'on aime, notre sport, qu'on a fait venir du Venezuela. Nous, on est partis à cause de l'insécurité, des pénuries. Moi, je suis arrivé il y a 2 ans. Et la vie n'était pas aussi difficile qu'aujourd'hui au Venezuela. J'avais un bon travail, ma maison, ma voiture. Mais j'ai quitté le pays à cause de l'insécurité et de la délinquance, pour ne pas que ma famille soit en danger. Ce qui arrive maintenant, c'est vraiment à cause des pénuries et parce qu'ils cherchent un meilleur avenir pour leur famille. En travaillant ici, ils peuvent envoyer de l'argent là-bas.
Le Venezuela arrive régulièrement en tête du classement des pays les plus violents de la région. Et aujourd'hui, les pénuries et l'inflation sont plus importantes que jamais. Selon une étude menée par 3 grandes universités vénézuéliennes, 87% de la population est en situation de pauvreté dans le pays. Alexandra, une jeune femme de 25 ans qui préfère ne pas donner son nom de famille, a quitté le Venezuela pour aider financièrement sa mère atteinte d'un cancer. Elle est arrivée il y a 1 mois, quelques heures après que le gouvernement chilien a commencé à exiger aux Vénézuéliens un visa d'entrée. Et comme Yoander, elle ne votera pas ce dimanche.
Pero es que yo no voy a votar por ningún candidato. ¿Me entiendes? Porque es que es falso. No hay un candidato que represente.
Je ne vais voter pour aucun candidat, parce que c'est une farce. Aucun candidat ne représente notre pays, et le président non plus. Je suis entrée dans un supermarché hier pour faire mes courses. C'est la première fois que j'ose le faire depuis que je suis arrivée. Et vous ne pouvez pas imaginer la douleur que c'est. D'acheter certaines choses en sachant que ta famille ne peut même pas en acheter la moitié. Parce qu'au Venezuela, la situation est telle que je dois trimer tout un mois pour pouvoir envoyer de l'argent à ma mère sans savoir s'ils vont fermer les banques, pour qu'elle puisse acheter un médicament. Parce que sa vie en dépend.
En réalité, même s'ils le souhaitaient, Alexandra et Yoander ne pourraient pas voter. C'est ce qu'explique Luis Zurita, président d'une association de Vénézuéliens installée au Chili.
Selon la loi, il est possible d'inscrire sur les listes électorales les personnes qui disposent d'une résidence légale à l'étranger. Eux donnent une interprétation très restrictive de la loi et affirment qu'il faut un titre de séjour longue durée. Évidemment, les gens se sont plaints ici. Par exemple, ceux qui sont arrivés il y a 6 ou 7 mois ou un peu avant, ceux qui représentent un nombre important d'électeurs potentiels, eh bien, ils n'ont pas été inscrits sur les listes.
Selon lui, cela montre la volonté du gouvernement de Nicolas Maduro de limiter le droit de vote de ceux qui ont quitté le Venezuela.
Justine Fontaine, pour Un jour dans le monde, merci beaucoup. On y reviendra bien sûr à cette élection au Venezuela. C'est ce dimanche le 20 mai prochain. Voici Junior Mervin sur France Inter. Police and Thieves.
Police and thieves in the street.
Tenir Mervyn, Police and Thieves sur France Inter. Et Jean-Marc Four me souffle dans l'oreille que les Clash l'ont repris et que c'était beaucoup plus,
formidable.
Comment dire, péchu, on va dire.
France Inter.
Climate change is real.
Fabienne Sintès.
It is happening right now. Let us not take this planet for granted.
Un jour dans le monde.
Tiens, en parlant de péchu, Sandy Dauphin qui tente de refroidir et de reverdir la planète. Vaste programme, mon général. Sandy, j'entends d'ici quelques Parisiens râleurs, mais après tout, Paris n'est pas la France. Vous allez nous expliquer qu'à Londres, à Pékin, mais aussi évidemment aux Pays-Bas, en Allemagne, on assiste à un essor de ce qu'on appelle les autoroutes à vélo. Ça veut dire que ce sont des pistes cyclables XXL qui permettent de traverser les villes, de relier de très grandes distances, enfin des dizaines de kilomètres en tout cas. Exemple, aux Pays-Bas, pays du vélo, un salarié sur quatre va au travail sur sa bicyclette.
Et oui, une nouvelle autoroute pour vélo fait fureur en ce moment aux Pays-Bas. Les cyclistes préfèrent d'ailleurs parler de réseau express pour vélo. Le rêve, ça fait moins bagnole. Mm-hmm. C'est le chemin Rhin-Val. Alors, Ringwaldpad, excusez-moi pour la prononciation. Imaginez un tronçon de 16 km de piste entre deux villes, Nimègue et Arnhem, aménagé avec des tunnels, des passerelles et le petit plus, Fabienne, grâce à une application sur votre téléphone, vous pouvez même modifier la couleur de l'éclairage du tunnel dans lequel vous passez pour que ce soit plus agréable. Pour être efficace,
bah, une voie... Il ne faut pas être nombreux à demander une couleur différente, non, bah, sinon ça donne quoi.
Et pour un joli feu d'artifice peut-être. Pour être efficace, une voie express pour vélo doit répondre à plusieurs critères, explique Stijn van Osteren. Ce Néerlandais préside une association de promotion du vélo en région parisienne baptisée Faravélo.
C'est une ligne droite, littéralement, vous ne faites pas la queue, vous roulez de A à Z jusqu'à la fin sans vous arrêter. Ça, c'est la première chose. Il y a aussi la séparation totale avec le trafic motorisé. Donc, un vélo ne se trouve jamais mélangé avec les voitures. Il n'y a pas de feu non plus, donc du coup, ça va beaucoup plus vite. Le revêtement également a été pensé pour être plus lisse pour le confort du cycliste. Donc du coup, vous avez vraiment l'impression de glisser dessus. Surtout, il faut que ces routes donnent envie.
Et le vélo à assistance électrique a boosté cette pratique. Là où vous faisiez environ 5 km avec un vélo classique, eh bien, vous pouvez désormais en faire une quinzaine sans vous fatiguer. Et ça vous permet d'arriver au travail sans être tout en transpirant.
Mais alors, est-ce que les Pays-Bas, Sandy, sont pas un peu victimes de leur succès? Parce qu'il paraît qu'en 2017, le vélo a fait plus de morts que la voiture.
Oui, l'année dernière, pour la première fois, les accidents de vélo ont fait plus de morts que les accidents de voiture. 206 cyclistes tués contre 201 automobilistes. En cause, l'explosion justement de ces vélos à assistance électrique impliqués dans un quart des accidents mortels. La plupart des victimes ont plus de 65 ans et ce n'est pas étonnant car le vélo électrique est très plébiscité, très prisé par les seniors. Mais attention, rouler à vélo aux Pays-Bas, ça reste quand même beaucoup moins dangereux qu'en France. Les kilomètres parcourus sont incomparables, vous vous en doutez. Ouais. Et vous le disiez, donc un salarié néerlandais sur quatre va au travail à vélo.
Mais alors est-ce que ce modèle néerlandais est réellement transposable ou est-ce que c'est pas plutôt un facteur culturel? Ça fait très longtemps que les Hollandais font du vélo.
Bah on l'a oublié, mais la France aussi a connu dans le temps des embouteillages de vélos. C'était pendant l'entre-deux-guerres. Frédéric Errand, chercheur à l'université de Lille 1 en urbanisme et transport.
Les sorties d'usines, par exemple, étaient noires de cyclistes. Et c'était encore le cas jusque dans les années 50 et dans les villes de province françaises jusqu'au début des années 60. Et la France a encouragé fortement les deux-roues motorisées dans les années 50-60. Mais à un point qu'on n'imagine pas. C'était l'époque du Solex, de la mobilette, du Peugeot bébé. L'objectif, si vous voulez, c'était de motoriser les cyclistes. C'était le slogan. Achetez un Solex, vous aurez un bon petit vent arrière permanent.
En tout cas, on assiste en ce moment à une sorte de revanche du vélo dans les grandes villes partout dans le monde.
Oui, alors toute proportion gardée, hein, la voiture n'a pas dit son dernier mot. En France, le vélo ne représente que 3% des déplacements. Mais oui, il fait un retour, ce vélo, depuis quelques années dans les grandes villes européennes.
Berlin n'avait que 2% de déplacements qui se faisaient à vélo dans toute la ville en 1974. Ils en sont aujourd'hui à 15%. C'est incroyable, hein, la remontée. Eh ben, on assiste à la même chose à Paris. On est aujourd'hui à peu près à pas loin de 5%, soit 10 fois plus. On reprend en fait le même chemin que quantité de villes au monde, y compris dans des lieux qu'on n'imagine pas. Par exemple, aux États-Unis, le vélo redémarre très très fort dans toutes les grandes villes.
En France, le gouvernement doit dévoiler son plan vélo d'un jour à l'autre. Les associations l'attendent au tournant. Elles réclament 200 millions d'euros d'investissement par an. C'est l'effort consenti par l'Allemagne pour développer les déplacements à vélo.
Allez, la remontada du vélo avec Sandy Dauphin sur France Inter.
Le 18-20, Fabienne Sintès sur France Inter.
Jean-Marc Fourré, le monde à l'envers, comme tous les soirs à la même heure. Après le lourd bilan d'hier à Gaza, Jean-Marc, 60 morts, 2000 blessés. Une journée beaucoup plus calme aujourd'hui. Les regards se tournent évidemment vers Israël et vers les États-Unis qui portent à l'évidence une responsabilité dans la situation avec le transfert de l'ambassade à Jérusalem. Mais dans votre monde à l'envers, vous nous dites, on devrait aussi regarder ailleurs et regarder, écoutez, le silence assourdissant des pays arabes.
Est-ce que vous connaissez cette phrase « Wen al-Arab ». C'est un slogan très révélateur que les manifestants palestiniens scandent régulièrement depuis de longues années, mais que l'on connaît peu en Occident. « Wen al-Arab », je le prononce sûrement assez mal, littéralement ça veut dire « Mais où sont les Arabes ?» Voilà, tout est dit, les Palestiniens se sont habitués au fait que les gouvernements arabes ne s'intéressent plus à eux. Et hier soir, après le bain de sang de Gaza, les chancelleries du Proche et du Moyen-Orient ont effectivement fait le service minimum. Seuls le Qatar et la Syrie ont employé le mot de « massacre ». Partout ailleurs, là, on pourrait logiquement s'attendre à une forte solidarité, une condamnation acerbe. Il n'y a que de l'eau tiède. Exemple le plus flagrant, les deux poids lourds de la région. L'Arabie Saoudite et l'Égypte se sont contentés de condamnations de pure forme sur ces, je cite, « tirs contre des civils désarmés », ben oui, et de formules toutes faites sur les droits des Palestiniens. Pilotage automatique de la même manière dans les Émirats ou au Koweït. On demande simplement une réunion du Conseil de sécurité. Tout le monde sait qu'elle ne conduira nulle part. Il y aura veto des États-Unis. On se résume, les gouvernements arabes n'en ont pas grand-chose à faire des Palestiniens et particulièrement de ces 2 millions de Gazaouis coincés dans 350 km².
Mais alors la raison, c'est quoi?
Ils estiment avoir aujourd'hui d'autres chats à fouetter. Pour l'Arabie Saoudite, les Émirats, le Bahreïn, la priorité c'est de contenir la poussée de l'Iran. Ils ont donc décidé de s'allier avec Israël pour affronter cet ennemi commun. L'Égypte ne veut pas se brouiller avec les États-Unis et combat les frères musulmans, donc le Hamas au pouvoir à Gaza. Donc elle ferme le terminal de Rafah, alors que c'était la seule issue pour sortir de la prison à ciel ouvert qui est devenue la bande de Gaza. La Jordanie ne veut pas se brouiller avec Israël et s'est peu ou prou accommodé des 2 millions de réfugiés palestiniens qui vivent sur son sol, etc. On pourrait continuer la liste. Les Palestiniens sont devenus la dernière roue du carrosse, les Gazaouis en particulier se retrouvent tout seuls. En fait, ils n'ont rien à offrir dans le grand marchandage régional, si ce n'est leur désarroi, mais ça pèse rien du tout.
Et en même temps, Jean-Marc, ce désintérêt des Arabes, ça date pas d'hier.
Non, c'est vrai, c'est globalement, cela dit, au fil des décennies, ça ne cesse de s'accroître. Dans les années 50, l'Égyptien Nasser avait érigé la cause palestinienne en sujet central. Au début des années 80, l'Arabie Saoudite avait avancé un plan de paix, et puis l'affaire s'est étiolée, même s'il y a eu une nouvelle initiative saoudienne au début des années 2000. Alors là encore, vous allez me dire pourquoi. Eh bien, il y a plusieurs raisons. D'abord, le paramètre « nous avons d'autres chats à fouetter » n'est pas nouveau. Aujourd'hui, c'est l'Iran. Hier, c'était le terrorisme islamique. Avant-hier, les révolutions arabes, les guerres civiles. Avant encore, la situation au Liban, etc., la guerre dans le Golfe. En réalité, le monde arabe est désuni. Il ne parvient pas à parler d'une seule voix. Et entre autres sur le sujet palestinien. Ensuite, les gouvernements arabes ont privilégié l'établissement de relations apaisées avec Israël. Ça s'appelle de la realpolitik, composée avec un pays militairement et économiquement puissant, a fortiori soutenu par les États-Unis. Enfin, de longue date, la question palestinienne a été instrumentalisée par les pouvoirs arabes à des fins de politique intérieure. C'est une vieille tactique, faire de beaux discours pour obtenir l'adhésion des foules qui sont promptes à condamner Israël. Mais on ne va pas plus loin. Et c'est comme ça que le sujet Palestine s'est progressivement réduit à un simple étendard, relégué très loin dans l'ordre des priorités des gouvernements arabes. Cette attitude, évidemment, enlève toute pression sur Israël, mais elle comporte un risque. Aujourd'hui, en dehors de la Turquie, la seule organisation qui se met à défendre ouvertement les Palestiniens, c'est, je vous le donne en mille, le groupe État islamique, en particulier depuis ses bases du Sinaï voisin. Jusqu'à récemment, Daesh s'était désintéressé du sujet palestinien, c'est en train de changer. Et comme les jeunes Gazaouis n'ont plus que leur désespoir pour bagage, il y a là une situation dangereuse, y compris pour Israël.
Merci beaucoup. Le monde à l'envers de Jean-Marc Four, le 18-20 continue avec Sébastien Paour qui arrive juste après ça.